donc de Myriam Stoffen, qui va nous parler de l'expérience de l'Asie ne que parade, qui est une expérience un peu unique, je pense, en Belgique, et qui part justement des dynamiques habitantes, citoyennes, pour remonter vers le devenir d'un événement festif et collectif. Est-ce qu'il y a un micro pour Myriam? Voilà. Donc Myriam Stoffen, elle est directrice de la Asie ne que parade, et alors de formation, elle est AGOG, un terme qui n'existe pas en français. C'est pédagogue pour les adultes, on m'a expliqué. Donc voilà, on te cède la parole.
D'accord. Ben, merci de cette invitation et merci d'être très nombreux un samedi matin, ça aide. comme ça. Voilà, j'ai amené quelques images qui servent surtout de support pour avoir une double lecture, disons, avec ce que je vais résumer en 15 minutes. D'une part, mais quand même vous permettre d'avoir quelques éléments en plus, disons, en filigrane. Alors, parler du projet des Asie ne que, c'est surtout, en ce qui nous concerne, parler d'un projet qu'on considère être un projet de ville. On veut vraiment se poser des questions sur c'est quoi notre ville, c'est quoi faire ville ensemble, à partir d'un constat qu'une ville comme Bruxelles, comme beaucoup de villes, étant des villes extrêmement fragmentées, segmentées, avec des grands clivages, sont confrontées à ce grand enjeu de se poser la question de si on veut faire ville ensemble, comment faire les pas pour connecter ce qui n'est pas connecté. Donc en fait, c'est l'histoire d'un projet, qui essaye de créer des espaces partagés, donc faire partager les choses qui ne sont pas encore partagées ou qui pourraient être partagées. Donc ça, c'est juste une petite définition du projet tel qu'il est né en 2000. Donc en fait, c'était l'enjeu à Bruxelles, dans une ville, il n'y a pas de carnaval, il n'y a pas de tradition. Eric m'avait demandé de bien parler de cet aspect-là. Ou toute la question de Bruxelles avec ses caractéristiques, ses extrêmes diversités sur beaucoup d'endroits. On se posait la question de quelle manière créer une nouvelle tradition à Bruxelles qui pourrait être un levier, à la fois une manière de montrer et à la fois un levier pour travailler sur cette réalité de cette diversité en ville. Sans découler un projet qui est devenu la Asie ne que parade, qui est un des axes maintenant, parce qu'entre-temps on fait beaucoup plus que ça, mais la parade est donc le bébé de Bruxelles 2000. Et en fait... l'idée, c'est de travailler pendant, à chaque fois, dans une biennale, donc on prend un an et demi, on essaye de faire travailler ensemble des partenaires, des acteurs dans la ville extrêmement diversifiés qui ne travaillent pas ensemble, qui ne se connaissent pas nécessairement, certains se connaissent, mais on a envie d'approfondir un tout petit peu leur manière de collaborer, pour, avec des artistes professionnels, ensemble, créer des projets artistiques qui, à la fin du processus, se montrent dans un grand spectacle dans la rue, donc la parade. Alors, juste quelques chiffres, pour ceux qui n'auraient pas encore vu ou entendu parler du projet. C'est surtout pour parler du fait que c'est un projet où on essaye de vraiment connecter de manière microscopique avec des centaines d'ateliers partout dans les quartiers pendant un an. Pour certains, c'est pendant un an, pour certains, c'est pendant quelques mois, donc c'est extrêmement diversifié comme approche, mais par la suite qui est connecté dans un projet de parade, donc cette tension du micro avec un projet d'une certaine échelle est entre autres un des ingrédients qui nous paraissent importants. Alors, en toile de fond, on a donc cette réalité bruxelloise, je ne vais pas trop la creuser, ce n'est pas l'objet ici, mais pour nous, c'est très important de se confronter avec cette analyse-là au quotidien. Et donc de garder vraiment le battement de cœur de tout ce qui se passe à Bruxelles et tout ce qu'il y a comme réalité auquel on veut se confronter. Si c'est au niveau institutionnel, comment les clivages sont renforcés, reproduits d'une part, les clivages sociaux, mais de la même manière au niveau culturel, au niveau linguistique, avec des enjeux qui dépassent largement les enjeux tels qu'on se les imagine, décrites par nos institutions politiques comme si Bruxelles est une ville où l'enjeu, c'est le bilinguisme. En réalité, on est déjà largement en tout ça, avec une multitude de personnes et des centaines de langues qui se parlent, des jeunes et tout ce potentiel. On en entend parler souvent qu'à partir de la négative et encore de ces jours, encore plus que jamais. Donc en gros, on essaye de faire pendant un an et demi un travail où, en traversant diverses phases, je vais juste faire un zoom dans cet exposé sur la parade, on travaille pour en arriver à ce travail de créer des liens. Alors, comment faire ? Parce que c'est facile de dire, ok, on va créer des liens, on va faire des choses ensemble. Et le fait qu'on mène un spectacle dans la rue à la fin, comme si c'est suffisant. Je vais simplement vous survoler quelques ingrédients qui nous semblent importants dans la méthode de travail qu'on propose. Alors c'est un petit exposé où je vais traverser quelques ingrédients. Donc ça veut dire que c'est pas à partir de là les éléments d'une recette, c'est pas des vérités, c'est simplement des éléments qu'on sait qui sont importants à tenir en compte ou en tout cas qui nous aident à réfléchir et à chaque fois réévaluer, corriger, changer notre manière de travailler, mais qui reste des questionnements au quotidien. Donc en gros, ce qui est important pour nous, c'est de toujours rechercher, dans les dynamiques de mise en partenariat, de faire travailler des acteurs de tous bords. Donc de vraiment toujours regarder en dessous du radar, ne pas dire on va directement regarder les interfaces et les intermédiaires professionnels, pour à partir de là toucher la population. Non, c'est vraiment aller au-delà, donc dans les secteurs socio-culturels, éducatifs, travailleurs de jeunes, des sports, mais aussi des collectifs, des comités de quartier, des habitants, des petits noyaux de jeunes ou autres acteurs encore dans la ville, et voir de quelle manière ça peut avoir du sens pour eux pour faire des choses ensemble. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on démarre toujours avec chaque biennale, donc avec un choix d'un thème. C'est un petit rituel urbain qu'on a commencé à installer. C'est toujours un thème dans lequel il y a quelques propositions qui sont proposées au vote public. Et à partir de là, les Bruxellois choisissent le thème de la biennale. Mais c'est toujours un thème qui à la fois structure, crée un cadre, mais qui reste suffisamment ouvert pour qu'il y ait une exploration assez large possible. Donc, à partir de là, tout un processus se met en place pour, de la même manière que ce travail de mise en partenariat entre des acteurs dans la ville, on met en lien avec ces partenariats des artistes. Donc là, on fait le même travail. Donc, c'est explorer tous les réseaux toutes les compétences et les viviers créatifs et artistiques qui existent, où là aussi on se force, chaque exercice, chaque biennale, d'essayer de regarder au-delà de ceux qu'on connaît déjà et donc d'explorer des nouvelles pistes de personnes qu'on ne connaît pas encore, si c'est à partir de certaines références artistiques ou des jeunes qui débutent ou des artistes qui sont déjà très, très installés mais qui ont envie d'explorer aussi de temps à autre un travail artistique beaucoup plus enraciné, disons, réellement en confrontation avec des questions sociales. Mais tout ce processus à partir de là qui se met en route, c'est donc ce qu'on appelle la phase de création, c'est une invitation à inventer sur mesure de chaque projet, et pour chaque biennale on a plus ou moins entre 20 et 25 projets qui naissent de cette manière là ceux qui ont déjà un petit programme de la dernière parade devant vous, donc chaque page c'est un de ces projets avec X partenaires, X artistes qui ont bossé ensemble avec entre 60 et 100 idées participants par projet, mais à chaque fois avec une invention sur mesure de leur processus de création. On essaye de chercher de quelle manière, à partir des envies, des disponibilités, des compétences, des spécificités des partenaires, des participants ensemble avec les artistes, de quelle manière la création peut se faire à partir de la déclinaison du thème jusqu'à la réalisation, donc jusque Z, d'essayer de mettre en place un processus de création le plus inclusif possible. Ça veut dire que pour certains processus, la demande est faite que l'artiste donne déjà une première idée, d'une interprétation du thème, par exemple, sur lesquels il y a un travail par la suite qui se fait pour inventer à partir de là la forme que peut prendre ou le concept qui peut se réaliser pour le spectacle à créer. Pour d'autres processus, c'est vraiment démarrer de rien avec les participants où on passe par des semaines et des semaines de brainstorming, d'aller-retour, de rencontres multiples, avant de commencer à définir quels sont les fils rouges sur lesquels ils ont envie de travailler. Que pour dire que pour nous, ce travail est assez important parce que c'est exactement dans cette dynamique de co-création, de création participative, peu importe les mots, qu'on met en place en fait un processus où on permet les participants ensemble avec les artistes et les partenaires de mettre tout leur cadre référentiel, toutes les idées, toutes les codes, hein, donc tout le capital symbolique disons, ensemble pour créer quelque chose qui est une nouvelle invention. Autrement dit, chacun est là avec sa propre identité, ses propres références, mais tout le monde doit faire un pas dans le vide qui est un panier dans lequel tout le monde met des bouts. Donc ça veut dire que tout le monde est invité de rentrer dans un processus de dépassement. Et c'est exactement là-dedans que la clé se trouve de ce qu'on essaye de mettre en place. Alors évidemment, bon, l'espace public est super important, physiquement, mais aussi symboliquement. Pour nous, la rue n'est pas une scène. Du tout. Et donc peut-être pour revenir au référentiel de tout à l'heure, donc pour nous le travail de l'imaginaire sur la ville ou sur les habitants ou à partir de la ville ou à partir des habitants n'est pas un clivage. On essaye de vraiment les traverser, les combiner, parfois de manière un peu réussie, vaguement, parfois plus difficilement. Donc par exemple, là où après 15 ans de travail, on a déjà fait un pas en avant, on sent c'est cette prise de conscience de comment le travail avec les artistes et donc à partir d'une pratique artistique, on est traversé par tous les stades, hein, donc avec des projets où on sentait que les artistes étaient trop auteurs de projets, où en revanche les partenaires et les participants laissaient un peu trop la place de l'imaginaire à ces artistes. Entre-temps, je crois qu'on a beaucoup appris sur les erreurs du passé pour beaucoup mieux traverser cette réflexion de comment travailler avec cet imaginaire collectif et par la suite les mettre ensemble dans des spectacles. Donc toute cette logique de comment travailler sur l'implication de chacun, donc tout le monde qui doit devenir acteur, « do it yourself hein, », mais avec l'invitation d'apprendre, en plus de ça, de le faire ensemble. Ce qui, pour nous, est assez important, parce que toutes ces compétences relationnelles, sur lesquelles on a absolument intérêt, pensons-nous, de travailler, et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, ça se confirme, c'est vraiment un espace qu'on ne peut pas délaisser, et chacun d'entre nous a vraiment une responsabilité. À partir de sa propre pratique, sa propre position professionnelle, d'investir ça. Et donc, d'essayer d'expérimenter, de faire des expériences, des laboratoires, peu importe, chaque moment, chaque projet est une occasion pour saisir cette exploration de comment collaborer ensemble, parce que c'est franchement pas une mince affaire. Donc autrement dit, ce qui pour nous est important, c'est toujours de garder aussi en tête de quelle manière ce travail de collaboration peut éviter de tomber dans le piège que le référentiel culturel ou social est le fruit de la tête de quelques-uns. Donc de toujours se dire, ok, mais qui est-ce qu'on exclut en fait avec cette manière de faire, cette manière de dire cette manière d'imaginer les choses, de parler, de prendre des décisions, tout ça c'est important. Voilà. Et donc à chaque fois avec cette envie d'essayer de se confronter avec de quelle manière notre propre pratique sociale, culturelle, artistique, peu importe, ou éducative, reproduit certaines exclusions. D'essayer de chercher toujours ce regard en confrontation. Et évidemment, en essayant à partir de là de tester au maximum de casser l'évidence que c'est les professionnels qui prend la décision ou qui a le leadership, ou que c'est parce qu'on parle la langue que ou parce que etc etc. On est garçon, on est fille, on est etc. Donc ces enjeux sur lesquels on essaye de travailler. Alors par contre, ce qui est beaucoup plus difficile dans jusqu'à présent, c'est par contre de faire rentrer jusqu'au bout, donc dans, jusqu'au niveau du participant, chaque participant, hein, donc il y en a plus ou moins 2000 par biennale, de rentrer dans cette prise de conscience, qu'on est dans ce processus de à la fois faire un travail ensemble qui met déjà ensemble ces dimensions sociales, le fait que ça peut être gay, de toucher à toute cette sphère artistique et culturelle, mais que derrière, il y a aussi tout cet enjeu de faire ville ensemble. Cette switch-là, c'est clairement quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à faire comprendre. Donc en gros, toute une série d'enjeux sur lesquels on s'étale maintenant un tout petit peu, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on réussit à bien faire sentir jusqu'au bout. Et ça, c'est pour nous encore un très grand enjeu dans le projet. Alors je termine juste avec un dernier élément, c'est que s'il y a aussi ce slide-là dans la présentation, c'est que on considère aussi qu'avec le projet, on veut de manière assez explicite entre nous dans le projet, évidemment avec tous les participants et les partenaires et les artistes, mais donc aussi de manière, enfin, dans la représentation de manière assez symbolique, faire un pas et parler d'un type de monde qu'on a envie de construire, un type de ville qu'on a envie de construire. Et donc pour nous, à ce niveau-là, on n'est pas en dehors des débats de quelle ville on veut construire. Donc c'est pas du tout neutre, c'est pas un projet qui reste simplement sur le niveau de divertissement, parce que si c'est le cas, faut qu'on arrête à la seconde et qu'on passe le flambeau au bureau d'événements de Bruxelles. Donc autrement dit, ne pas avoir peur. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi par ces processus participatifs. Et avec des partenaires, et là je peux vous dire, le plus que les partenaires sont institutionnalisés, le plus qu'on a du mal à se confronter réellement à des questions de fond sur les questions qu'on pose, le pourquoi on fait ce qu'on fait, comment on travaille, se confronter avec nos propres mécanismes qui sont excluants, qui reproduisent des positions dominantes et blablabla. Et donc de ne pas avoir peur de rentrer dans le conflit et la confrontation, et donc apprendre à se parler, à rentrer dans le conflit, mais à partir d'un conflit symbolique, hein, d'apprendre de ne pas se taper sur la gueule, pour le dire de manière précise, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais d'apprendre que si on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, il y a peut-être moyen, difficilement, certes, parce que ça demande un investissement incroyable de chacun, mais d'apprendre d'essayer de s'en sortir autrement. Donc en fait, c'est ce genre de petits espaces qu'on essaye de créer à travers ce projet. Alors cette image, il est simplement parce qu'on travaille beaucoup avec des amis de l'Irlande du Nord entre-temps. Aujourd'hui, il ne serait même pas nécessaire d'ajouter cette image, mais c'est surtout pour souligner à quel point l'enjeu d'apprendre à se parler et de rentrer en conflit pour reconstruire et donc une ville dans un sens et pas dans un autre, et donc de garder cette dynamique inclusive, mais qui est à inventer et à construire tous les jours. Donc, d'où l'importance de cet imaginaire pour faire ville ensemble. Quelle ville, quelle identité qui n'est pas une identité qui à nouveau crée une nouvelle barrière, est un enjeu quotidien, et donc pas très loin de nous, les clivages sont encore très très importants. Voilà, je vais en arrêter là, plus ou moins.
Ok. Merci Myriam. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, réactions qui venant de la salle?
Moi, Bonjour, Dominique de Monté. Avant toute chose, merci beaucoup. Vous me donnez un éclairage tout à fait nouveau sur la Zine à queue parade, que je voyais finalement juste comme quelque chose de folklorique. Et je me rends compte ici que c'est beaucoup plus que ça. D'où vient l'idée et surtout comment est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place? Parce qu'on se rend compte de tous les challenges qu'il y a là derrière. Et donc, je suis vraiment intéressé sur comment vous avez fait ça de manière un peu plus concrète. Parce que le résultat est impressionnant et bon, avec tout ce qu'on vit pour le moment, on voit vraiment qu'il n'y a pas une solution, mais ceci fait partie des solutions à apporter pour régler en partie les problèmes qu'on connaît maintenant.
Quelques ingrédients qui sont importants dans l'histoire. Je vais peut-être revenir juste en arrière. Voilà. On a eu la chance d'avoir le catalyseur qui était Bruxelles 2000, hein, donc la ville européenne de la culture, qui était vraiment un moment où toute une série d'énergies et de forces ont été mises ensemble pour monter ces projets. Dans un premier temps, je dirais, les premières deux biennales, c'était vraiment un travail extrêmement classique, en fait, sur des schémas classiques, de travailler avec toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient les interfaces. J'en parlais, hein, donc on ne veut plus travailler comme ça, mais à l'époque, au démarrage du projet, c'était ça. Et c'était d'ailleurs aussi un projet qui voulait montrer les forces vives de manière positive et les tissus associatifs de manière positive. Dans un premier temps, c'était important dans le projet. Par contre, après X temps, on a vu que ça avait aussi ses limites. Un, tu le touches. Que le public, façon de parler, est captif de ces organisations. Et de deux, tu as déjà un filtre assez important de type de personnes que tu rencontres. Donc, autrement dit, faire la petite analyse de qui tu touches pas est très vite fait, c'est énorme. Et à partir de là, s'est mis en route tout un processus où on a commencé à aller beaucoup plus loin dans ces questionnements de vers sur quoi on veut travailler. Et donc, de se dire, OK, tout ce travail autour de développement de quartier, de travailler sur des principes de création qui vont vers l'hybride, qui cherchent à créer ces processus d'inclusion. Donc ça veut dire quoi? Travailler au niveau micro, donc en fait au niveau de tout montage projet, sur un accompagnement de comment apprendre à faire projet. C'est quoi monter un projet? Et donc de vraiment travailler sur la transmission de comment on fait ça, monter un projet. Mais avec des principes de faire circuler le pouvoir, etc., etc. De regarder quelles sont les égalités, de défendre des... Il y avait quelques phrases, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc je ne les ai pas répétées nécessairement, mais de rester sur les principes d'égalité entre tout le monde, mais quand même accepter qu'il y a des différences, et comment travailler avec ça sans à nouveau reproduire quelque chose qui est... etc. Et ça, c'est une recherche continuelle, mais donc ça a été à la fois démarrer, arracher l'asphalte, disons, avec ce qu'on a, avec les schémas qu'on a de pensée, de concepts, des méthodes de travail, mais continuellement, c'est les remettre en question et creuser plus loin avec nos méthodes de travail qu'on met en place, regarder quels sont les effets pervers, les choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Donc après chaque biennale, on fait un travail assez intense avec tous les partenaires, tous les artistes et si possible aussi avec les participants, d'évaluation, qui pour nous, à partir de là, servent. Donc dans la biennale, quand on parle d'un an et demi, c'est parce qu'il y a plus ou moins quelques mois entre les deux où on secoue tout jusqu'à même se reposer la question de la pertinence du projet. Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Et c'est quoi la parade? Et donc de chaque fois reposer la question. Ça, je crois que c'est super important comme dynamique. Et se laisser traverser aussi par toutes les critiques et toutes les failles et les erreurs parce qu'elles sont inévitables. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit absolument changer, je pense, dans beaucoup de nos pratiques, c'est d'accepter qu'on est vraiment sur une exploration et on ne sait pas. On ne peut qu'essayer. Et par contre, le seul guide qu'on a, c'est les quelques valeurs et les quelques principes qu'on n'a pas envie de lâcher et sur lesquels on a envie de construire. Alors, ça veut dire aussi, et ça, c'est une dernière chose, que dans chaque processus, au début, on démarre aussi avec les personnes qui ont envie de monter un projet sur un questionnement de pourquoi ils veulent participer au projet, pourquoi ils veulent monter un projet. Et c'est quoi les objectifs et les enjeux ? Alors, beaucoup trouvent ça très chiant comme phase, parce que très, très souvent, et donc je parlais tout à l'heure de le plus que les partenaires sont institutionnalisés, le plus qu'on voit qu'il y a une difficulté de vraiment aller très loin, c'est beaucoup les professionnels qui se posent même plus ces questions. Ils sont dans l'évidence, ils ont une mission dans leur statut, ils ont un job avec une manière de travailler, une certaine fonction, et de par cette réalité-là, si on est déconnecté ou pas de la réalité, si on met en question notre manière de faire ou pas, bah, y a l'évidence de faire ce qu'on a à faire. Et je crois que là, la déconnexion démarre déjà et on est déjà, disons, dans l'erreur à cet endroit-là. Et donc, on essaye de faire le pas en arrière et de poser ces questions. De pourquoi vous voulez participer ? Avec qui ? Pour aller vers quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire bouger ? Quelle ligne vous avez envie de bouger ? Et donc, même des partenaires, parce qu'on a plus ou moins, chaque biennale, la moitié des partenaires qui sont plus ou moins les mêmes, mais, et d'autres, c'est des nouveaux. Mais avec les anciens, encore plus que ceux qui le font pour la première fois, on essaye de secouer les arbres. Et c'est pas nécessairement facile. Hein, et on fait des erreurs aussi là-dedans. Hein, donc ça, c'est toujours cet aller-retour. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse.
Super réponse, merci.
Peut-être une question. Tu as parlé de l'institutionnalisation comme menace. Comment est-ce que la Zineke se définit ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un mouvement culturel ? Est-ce que c'est un mouvement citoyen ? Je pense qu'il est important de dire quelque chose par rapport à ça, parce qu'on sent bien aussi que c'est pas une organisation seule non plus. Donc voilà, il y a des gens qui tournent autour. Donc je pense que c'est intéressant de dire éventuellement un mot là-dessus.
Ben, dès qu'on crée un projet et une dynamique, il faut la matérialiser. Elle est portée par des personnes. Nous-mêmes, on a une ASBL, enfin en fait deux, on en arrête deux. À l'origine, une francophone, une néerlandophone. On essaye de se débarrasser de ça. Donc d'office, il y a aussi cette institutionnalisation obligatoirement du projet Zineke. Donc c'est le cas. Mais je crois que, enfin, une des solutions sur lesquelles on essaye d'éviter de nous-mêmes tomber dans le piège que, ben voilà, nous-mêmes, les professionnels et notre job, et donc on continue à faire ce qu'on a à faire, c'est exactement de créer cette dynamique extrêmement auto-questionnante avec toute une série de partenaires. Donc, autrement dit, de mettre plein de miroirs autour de toi et des chambres de résonance qui te secouent, qui te questionnent, et les faire vraiment de manière radicale, hein, ne pas avoir peur. Hein, donc chaque biennale, aller rencontrer des personnes, ce que nous on essaie de faire, des personnes ressources, des personnes clés, des personnes qui connaissent pas du tout le projet, et de vraiment leur demander, voilà, donnez-nous votre opinion du projet, comment vous le voyez, juste entendre, et parfois ça fait mal aux oreilles, hein, mais c'est bien. Donc c'est de rester dans cette autocritique d'une part, mais qui n'est pas nous qui le formulons aussi, mais donc de l'amener de l'extérieur. Donc quelque part, toujours être dans cette dynamique de d'un tiers lieu, donc le projet qui ne nous appartient pas qu'à nous, d'une part, et la porosité des allers-retours constants, en fait, et aussi tout le long d'un processus, hein, parce que là je parle sur les années. Mais...
Bonjour, mon nom est Marc Notre-Dame, je ne suis pas qu'un rouleau, je suis originaire de Gand, mais j'ai habité plusieurs années à Bruxelles, donc récemment encore. Quand vous dites que Bruxelles est une ville multilingue, je m'excuse parce qu'il y a un certain nombre de gens qui affirment cela pour distinguer Bruxelles d'autres grandes villes. Je pense que cette situation n'existe pas seulement qu'à Bruxelles. Donc, récemment, j'ai vu des chiffres sur l'enseignement primaire à Anvers. Il y a aussi beaucoup d'enfants dont les parents parlent une autre langue que le néerlandais à Anvers, je veux dire, dans les écoles, etc. Donc, il faut faire très attention avec ça quand on dit que c'est multilingue, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des agendas cachés par rapport à cela, à savoir qu'ils voudraient changer la situation institutionnelle à Bruxelles, concernant qui est actuellement le bilingue. Et je pense que là, on ouvrirait une boîte de Pandore. Et j'imagine mal qu'on puisse changer quelque chose dans un avenir politique prévisible, avec l'article 4 de la Constitution qui indique les régions linguistiques et d'autre part l'article 129 de la Constitution qui, d'une façon peut-être pas très clairement définie, mais indique aussi une marge, un cadre dans lequel des régimes spéciaux, des régimes dits de facilité peuvent être introduits. Donc il faut faire très attention à cela et faire attention de ne pas être récupéré politiquement par des gens qui voudraient accorder des privilèges, parce que là, alors, il s'agirait bien de privilèges, à des très petites minorités de 1 ou 2% de la population, alors que d'autres minorités qui sont plus importantes démographiquement en seraient exclues. Et d'autre part, qu'il faudrait aussi accorder ces droits linguistiques à une petite minorité, alors que, juste à côté de Bruxelles, vous savez, tout le monde sait ce qui se passe avec les minorités qui se trouvent du mauvais côté de la frontière linguistique en Belgique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.
Je peux répondre en 5 secondes, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que je peux prendre chaque slide où je peux vous dire à quel endroit on pourrait récupérer d'une autre manière politiquement les propos. Donc il y a cet aspect-là, mais il y en a plein sur la notion de participation, de l'identité hybride, la ville... etc. Enfin, la ville à construire. Enfin, oui, et c'est un grand enjeu. Mais par contre, personnellement, dans notre projet, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à parler de quel type de société et quel type de ville on a envie de construire. Par contre, l'exercice de comment ça doit se traduire dans un cadre institutionnel de gestion politique, ça, c'est un tout autre débat. Vous pouvez me réinviter, mais c'est un autre débat. Et c'est un autre PowerPoint à ce moment-là, oui.
Oui, ce sera assez bref dans la mesure où je pense qu'il y a pas mal de choses qui devraient suivre à la suite de l'ensemble des exposés. Mais ceci dit, il y a quand même une question qui est commune, bien qu'elle n'ait pas dit dans le deuxième exposé, mais elle est commune aux deux. C'est la question de la réalité territoriale qui porte l'imaginaire. C'est-à-dire, par exemple, la Zineke Parade, elle avait une réalité territoriale sans doute plus importante au départ. Il y a eu un recentrement territorial vers le centre de la ville par rapport au premier projet, ce qui n'enlève rien évidemment à la qualité de l'évolution du projet lui-même, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu une évolution culturelle très importante, une évolution sur des projets, les projets sont devenus plus réels, mais il y a évidemment à ce moment-là des liens qui deviennent plus virtuels entre les différents partenaires au projet. Et donc, la question de la territorialité devient un peu seconde. Et donc, pour être clair, et pour ceux qui ne connaîtraient pas la Zineke Parade, par exemple, il y avait au départ, donc c'était un rassemblement à partir de différents cortèges qui venaient de différents endroits de la ville. Et maintenant, il y a un nouveau territoire qui est un peu plus restreint, qui est le centre-ville, qui est investi effectivement, enfin bon, plus ou moins. Quand même. Il y a eu quand même, disons, on peut en discuter. Et je mets ça en rapport avec l'exposé de Benoît qui parlait du ring de Charleroi et de la manière du travail de Glibert qui essayait d'installer des porosités vers des territoires extérieurs à la ville. Et donc je pense qu'il y a, le titre imaginaire pourrait les faire penser qu'en fait, il n'y ait pas besoin d'un territoire réel pour porter cet imaginaire. Alors que moi, je trouve que la question mériterait en tout cas d'être posée.
C'est une question importante. C'est un des chantiers sur lesquels on a envie de bosser encore les années à venir. Parce qu'en fait, l'évolution du projet n'a pas amené... certes, le modèle a été quitté d'avoir 5 pôles, parce que c'était ça au départ. Donc, c'est 5 bouts de territoire et c'était X communes ensemble. Qui faisait le travail de production, comme ils appelaient ça à l'époque, hein, de mise en place d'une dynamique de production des projets. On a déconstruit ça en concertation avec tous ses partenaires, évidemment, pour en arriver à prendre beaucoup plus comme point de départ ce que je disais tout à l'heure, c'est l'envie et les objectifs et les enjeux que chacun formule à partir de sa position et à partir de là créer des partenariats qui ont des sens. Aujourd'hui, ça amène à avoir la moitié des projets qui ont vraiment encore un ancrage plus territoriale, plutôt liée à certains quartiers ou à certaines communes, mais ça c'est vraiment minoritaire, donc c'est plutôt une dynamique territoriale liée à une dynamique de quartier. Et la moitié des projets qui, de manière très explicite, essayent de travailler sur d'autres enjeux. N'empêche que c'est vraiment une question qu'on a envie de creuser, c'est jusqu'où on peut aller pour ne pas perdre non plus tout ce questionnement et cette confrontation avec ces questions de cet imaginaire de qui on est, hein, quelle ville on est. Mais toujours en mettant ça en confrontation quand même, hein, parce que le but n'est pas comme c'est mis dans l'autre petit slide, hein, des petits soucis, c'est, le but n'est pas de tomber dans un nouveau piège qui est ce patriotisme de quartier ou de renforcer des hégémonies, qui était le cas avec le début du projet, où on sentait que donner le rôle centralisant à une organisation qui a une mission qui n'a rien à voir en soi avec un projet comme celui-ci, mais qui a une autre mission, mais qui reçoit une mission pour faire le travail sur son territoire, en fait, a toujours aussi comme possible piège, et pas nécessairement parce qu'il y a une méchanceté derrière, hein, simplement parce qu'on est dans un schéma de fonctionnement, de renforcer une position, une manière de faire, et pas assez se poser des questions si elle s'ouvre alors à tout le monde, si elle traverse suffisamment les frontières, si elle laisse assez d'espace au possible. Mais voilà, tout autre choix à partir de là, des nouveaux pièges, hein, sur lesquels il faut à chaque fois se questionner.
Voilà, merci Myriam. On va passer au troisième exposé. Peut-être Myriam, petit cadeau de remerciement de la part de l'organisation. Benoît Dussard doit également venir prendre son cadeau.